Long rebound. Steph, no timeout with six. At five, Curry for the lead.
Always. Salut à toutes et à tous, on espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis rejoint ce lundi 27 mai par Shai pour parler play-off bien entendu, mais pour parler aussi et avant tout de Luka Doncic qui est en train de réaliser des play-offs incroyables. Vous allez voir que ça pose tout un tas de questions sur son statut actuel. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Est-ce qu'on peut déjà lui prévoir une fin de carrière ou du moins un statut parmi les GOAT, voire parmi une place dans la discussion pour le GOAT? Voilà, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de Luka Doncic. C'était nous, on a profité à fond de ce week-end. Je vais commencer par te raconter le mien, Shai, et après je vais te poser des questions sur le tien. Moi j'étais limite, enfin j'ai pas fait une overdose, non, j'ai kiffé, mais puis entre les playoffs NBA, le Final Four Euroleague qui était incroyable, la finale notamment la finale qui était vraiment extraordinaire, quelques matchs WNBA parce que ça y est, tu m'as convaincu, j'ai pris moi aussi le pass WNBA pour suivre ça de plus près. Je t'avoue que j'ai marté énormément de basket ce week-end. Toi, comment était ton week-end, Shai, ce week-end?
Pareil, hein, du basket avec les playoffs NBA, les matchs WNBA, évidemment, ça c'est classique. Je suis content de d'avoir contribué à te convertir. Et sinon, hors basket, je me suis retrouvé à un anniversaire où ma fille était invitée dans un laser game, voilà, où j'ai canardé les petits insolents pendant une heure. C'était très sympathique, ça m'a fait mon petit sport du week-end, donc voilà.
Parfait, bah écoute, pour toute information, moi le samedi c'était l'anniversaire de mon fils et j'essayais de mater la fin du match de la nuit entre deux moments où je surveillais quand même qu'ils s'éclatent pas dans les murs parce qu'ils étaient un espace de trampoline, mais bon, c'est bon, j'ai réussi à voir le match de la nuit de vendredi à samedi sans me faire spoiler à un moment, donc voilà, pu profiter à fond. Oui, deux choses avant qu'on commence le podcast. On vous rappelle qu'il y a le CQFR de samedi dernier, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, voilà le ce à quoi il faut répondre dans lequel on s'est évertué. Alors c'était toi, Shai, qui posais les questions et puis avec Antoine, on a essayé de répondre du mieux possible aux questions que vous aviez à nous poser. Et aussi le podcast Hoop Culture de dimanche qui était consacré à New York et aux Knicks et dans lequel on a eu la chance de recevoir avec Pierre Armand Guillaume Laroche, le fondateur de Basket Session et l'un des cofondateurs de Reverse. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter tout ça, allez jeter une oreille, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On sera ravi de lire tout ça.
Absolument, c'était. Je le recommande aussi. Hein. J'étais content de voir Guillaume dessus. En plus, c'était une petite surprise. Donc, tu l'as dit très bien d'ailleurs dedans. Sans Guillaume, il n'y a pas grand-chose qui est possible au niveau de Basket Session, de Rivers et tout ça. Et puis en plus, voilà, c'est un mec cool et marrant. Allez écouter ça. Puis Théo et Pierre Armand sont marrants aussi, évidemment, je ne vais pas vous retirer ça. Ça parle même de foot, alors j'ai bondi deux, trois fois, vous verrez pourquoi.
C'est clair.
J'ai tout de suite, c'est simple, j'écoutais le culture et puis j'envoyais des messages en même temps à Théo et Guillaume en leur menaçant de démissionner s'ils ne retiraient pas les propos qui avaient été tenus, mais voilà, j'ai réussi à me raisonner après coup.
Voilà, on a envoyé un communiqué qui devrait apparaître sur toutes les plateformes en fin de journée pour expliquer la situation. Effectivement, je voyais Pierre Armand qui posait des questions sur l'OM à Guillaume en disant « Non, mais t'es mal parti là, t'es mal barré dans ta question ». Bref, on a passé un super moment. Allez, on va commencer quand même en parlant de cette série de playoffs entre les Minnesota Timberwolves et les Dallas Mavericks. On avait fait une preview en fait des finales de conférence la semaine dernière avec Antoine. On avait imaginé quand même une issue assez courte pour la série de l'Est, où je crois que là les plus optimistes, je crois que c'était peut-être toi et moi, Shai, on avait dit 4-2 pour Boston.
Je crois que ça c'était Antoine et moi j'avais mis 4-1, je crois.
4-1, ok. Donc Antoine et moi on était plus optimistes pour Indiana, on s'était dit bon 4-2 pour Boston. Par contre, on avait tous pronostiqué une série en 7 manches à l'Ouest. Shai, je crois que t'avais pronostiqué 4-3 pour Minnesota.
Je crois même que j'avais mis 4-2, donc bravo à moi. Okay. Je me félicite d'avoir encore foiré.
Moi, j'avais dit 4-3 Dallas, effectivement, mais j'imaginais que ça serait une série longue. Série qui est donc Dallas qui mène 3-0 dans la série. Ce matin, vous avez débriefé dans le CQFR avec Antoine, vous avez débriefé le match 3. Je te propose qu'on revienne un petit peu quand même sur cette série, ce qui est en train de se passer, notamment sous l'angle de Luka Doncic. C'est pas une surprise, finalement, je pense, de voir Luka Doncic à un tel niveau. C'est impressionnant de voir quand même finalement, le niveau de cette équipe de Dallas, qui au fur et à mesure de la saison est devenue vraiment une équipe soudée, solidaire, avec tout un tas de ressources, à un moment contraint de modifier un petit peu sa rotation. Jason Kidd sort Dwight Powell, qui n'a pas joué du tout des playoffs, si je ne me trompe, ou alors des fins de match. Vraiment, finalement, il joue un court passage, mais il arrive à être bon, enfin, du moins à être efficace. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer du côté de Dallas, et rien ne serait possible sans Luka Doncic. Quel sentiment te laisse les perfs de Luka durant ces playoffs, Shai?
J'ai un peu des étoiles dans les yeux et je me dis que j'ai pas assez respecté peut-être le talent théorique, le niveau théorique de Luka Doncic. Et surtout, je pensais premièrement qu'il serait pas à ce stade. En tout cas, après, j'imagine maintenant que Dallas va aller en finale NBA, hein, mais je vais pas présumer de ce qui va s'y passer. Mais j'ai sous-estimé. Ou surestimer sa blessure, le fait qu'il était diminué, je me suis dit, ça va être compliqué parce qu'au tour précédent, on avait senti que parfois, il était peut-être un peu diminué. Donc, j'avais un peu craint ça, sauf que là, je le trouve absolument rayonnant physiquement, il n'y a aucun souci. Et j'avais aussi sous-estimé, je pense, la qualité du collectif qu'il avait à sa disposition, l'entente qu'il y avait entre les joueurs. Si on remonte à plus loin, j'ai sous-estimé l'alchimie théorique qu'il y aurait entre lui et Kyrie Irving. Donc là-dessus, c'est une petite surprise. Par contre, au niveau du talent du garçon, du joueur, ce n'est pas une surprise de le voir être capable de faire ça. Le game winner sur le match précédent, c'est un truc de joueur, de très, très grand joueur. La manière dont il arrive à faire jouer l'équipe, à être à la fois altruiste et individualiste quand il le faut, parce que c'est important aussi, surtout quand tu es une superstar et qu'il faut faire des matchs et des séries. Pour continuer dans le registre des surprises, et ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'étais sceptique sur Dallas, moi je partais du principe qu'avec tes deux meilleurs joueurs, Luka Doncic et Kyrie Irving, qui étaient presque des handicaps défensivement, historiquement c'est pas des bons joueurs défensifs, Kyrie a parfois su faire les efforts, mais ça reste quand même un virtuose en attaque, Luka aussi, c'est pas des joueurs qui ont eu besoin de beaucoup défendre dans leur carrière. Je ne m'attendais pas à ce niveau de performance défensive des deux, à ce niveau d'implication, d'effort tout court. Et Luka en particulier, je trouve qu'il est, il est bluffant là-dessus. Et du coup, ça fait un cocktail de joueurs à un niveau absolument étourdissant contre l'une des meilleures défenses que personnellement j'ai vues depuis très très longtemps, voire all time, tout simplement sur ce qu'ils ont montré contre Denver au tour précédent. Et voilà, ça donne un joueur... Un joueur majeur, un joueur d'élite à un niveau encore plus élevé que ce que je supposais, d'une part à ce stade de sa carrière et même juste là à ce stade de la saison. En fait, il est tout simplement exceptionnel. C'est le leader d'une équipe qui, sauf cataclysme, va aller en finale NBA avec des vraies, vraies raisons de croire qu'ils peuvent gagner. Et si Dallas gagne et que donc Luka gagne, je pense que ça, il y a des implications très importantes sur déjà ce qu'il est en train de laisser comme empreinte en NBA.
Ouais, Je suis tout à fait d'accord avec toi avec la révolution, quand même une partie de la révolution à Dallas, c'est l'implication défensive de Kyrie et de Luka. Alors autant, j'avais pas le sentiment que Luka était forcément vraiment une faille qu'il était si facile que ça d'exploiter par le passé, mais simplement de par son physique. Autant je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'il faisait pas les efforts. Là, ce qui est vraiment incroyable, je trouve, dans ces playoffs, c'est que au fur et à mesure, t'as de moins en moins l'impression que c'est des efforts en fait que fournissent Kyrie et Luka de ce côté du terrain. C'est de plus en plus naturel. Pour moi, Kyrie, c'est une révolution en fait. Il a totalement changé son approche du jeu de ce côté-là du terrain. Et tous les deux, j'ai l'impression que maintenant, ça fait partie de leur identité et qu'il y a une espèce de il y a une réelle équipe qui s'est créée avec une identité qui va de joueur en joueur et qui forme ce groupe où maintenant ils refusent finalement simplement de subir en défense. Il y a une agressivité défensive qu'on n'avait pas vu. Au passage, je trouve que Jason Kidd fait des playoffs incroyables. Tu sais, on parle tout le temps de la zone pour les joueurs, des moments où ils peuvent rien rater. Alors, je dirais pas que Jason Kidd est déjà dans ce type de situation, mais c'est un peu l'impression que ça donne, où t'as l'impression qu'il a un coup d'avance quand même systématiquement, où chaque fois qu'il sort un mec du banc, ça marche, que ça soit relancer complètement Jaden Hardy qui avait pas du tout joué, ça marche. Ses rotations qu'il maîtrise à la perfection, je trouve, entre les moments où il fait jouer Derek Lively ou ou Daniel Gafford, ça fonctionne. Tu sais, j'avais vécu ça en 2007 sur un championnat d'Europe, quand la Russie est championne d'Europe avec David Blatt.
Avec
Où,
Blatt,
ouais,
ouais.
voilà, où t'as, voilà, c'est, il y a des matchs qui se jouent à rien. T'as l'impression que tous les coups sont gagnants pour le coach. J'ai l'impression que Jason Kidd, c'est un petit peu ce qui est en train de lui arriver durant
même,
ces playoffs.
Même les challenges, tu sais, les challenges
Ouais,
avec
t'as raison.
alors, tout au long de la saison, déjà, je crois que c'était le coach qui avait le meilleur pourcentage de réussite sur les challenges. Après, ça peut être le flair de l'ancien joueur aussi. Ça reste ça a toujours été une de ses qualités. Il sent le jeu comme il le sentait sur le terrain. Mais tu as raison, tout lui réussit. Même dans sa communication, il est très bon. Alors que c'était ce qui lui était reproché. Voilà, c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Donc, je l'ai adoré comme joueur. J'étais un peu plus sceptique sur le coach, mais je lui ai toujours reconnu quand même des qualités. Sinon, des joueurs comme Yanis et compagnie ne seraient pas damnés pour lui et n'auraient pas été extrêmement tristes quand il est parti. C'était plus dans le relationnel, le manque de diplomatie qui est un peu inhérent aux très très grands joueurs. Ils ont du mal à tolérer des choses qu'eux arrivent à faire et que leurs joueurs n'arrivent pas à faire. Mais là, tu as raison, enfin, tout lui réussit, les choix qu'il fait, la manière dont il utilise les recrues qui lui ont été données en cours de saison, et la fameuse communication où on est passé d'un truc désastreux l'année dernière, où j'avais l'impression, et on avait l'impression que
qu'il
était en roue libre et qu'il allait sauter. On va le répéter, mais le coup du... Ah ouais, non, mais moi je suis juste un spectateur comme un autre, comme vous. C'est juste que je suis mieux placé sur le terrain, mais je suis pas. En gros, c'est des joueurs qui sont en décision. Enfin, que des trucs comme ça. T'as l'impression que c'était terminé pour lui. Et là, il retrouve l'inspiration. Il compare Doncic à Picasso. Il fait des sorties plutôt inspirées. Il est pas dans l'émotion et l'agacement quand il y a des doutes autour de lui et de son équipe. Ça a été le cas à un moment de la saison et même pendant les playoffs. Je le trouve, t'as raison. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, même dans nos CQFR, on mentionne surtout les joueurs, parce que voilà, le talent que démontrent Kyrie et Luka particulièrement, mais Kidd fait du très bon travail.
Et au passage, une stat, alors que je ne suis pas allé vérifier, mais que j'ai entendu récemment d'une source suffisamment crédible pour que, voilà, que je ne vérifie pas avant de vous la partager, mais Jason Kidd est le seul coach cette année qui n'a pas pris de faute technique. C'est un peu à l'image de du calme qu'il affiche en toutes circonstances, finalement, même dans ses playoffs. Je le trouve hyper en contrôle. Et effectivement, on en revient quand même tout. Si ça fonctionne, c'est parce que tu as un joueur comme Luka. Et en fait, il y a un truc qui me faisait. Qui était intéressant, je trouve, en écoutant les commentateurs, notamment Stan Van Gundy, qui disait non, mais sur pick and roll, je comprends pas pourquoi les Wolves sont en défense en drop. Ils devraient blitzer systématiquement Luka. Alors voilà, justement, dans le numéro spécial défense qu'on est en train de rééditer, parmi les articles qu'on a rajouté, on a notamment rajouté un article de 4 pages sur les différentes manières de défendre sur pick and roll. C'est Romain Leroy, assistant coach du CSP Limoges, qui nous a fait l'amitié d'écrire cet article et de décrire un petit peu toutes les manières, du moins les manières les plus fréquemment utilisé par des coachs pour défendre le pick and roll en fonction de leur philosophie. Donc le drop, comme vous le savez certainement, c'est quand le défenseur qui défend sur l'écran, au lieu de sortir très fort, simplement protège l'accès à la raquette. Pensez à Brook Lopez par exemple avec les Bucks. Et le blitz, c'est quand le grand sort avec le défenseur du porteur de balle pour faire une prise à deux tout de suite sur la balle. Bref, Stan Van Gundy disait il faut absolument blitzer et tout. Match d'après, il blitz. Ils se font ouvrir le ventre par Derek Lively dans l'axe. T'sais, ça me faisait penser au championnat du monde remporté où la Grèce a tapé Team USA. Une Team USA où tu avais LeBron, Dwight Howard, Dwayne Wade, Chris Bosh et compagnie. Ils se sont fait ouvrir par Théo Papaloukas et Sophocles Scortianidis, du pick and roll dans l'axe. En fait, je me dis, mais en fait, limite, cherche pas d'ajustement stratégique. En fait, tu peux pas le stopper, en fait.
Il y a pas de réponse.
Luka, il a un niveau où tu peux espérer qu'il rate, tu peux faire comme Shane Battier, peut-être essayer de l'emmener sur à prendre des décisions où d'un point de vue statistique, tu sais que tu fais baisser un petit peu son pourcentage de réussite, mais moi je vois pas de solution en fait.
Il y avait une solution pendant un temps jusqu'à très récemment, c'était de le faire sortir des matchs.
Oui.
Et c'est aussi un axe de progression dont on n'a pas beaucoup parlé parce que il s'est fait en cours de saison, il est encore reparti pour nous faire une saison où dans nos discussions, on disait « qu'est-ce qu'il est chiant, il est encore en train de râler. » Ok, parfois, il y a certainement des coups de sifflet qui devraient lui revenir. Mais chaque contact, chaque attaque de cercle, chaque sifflet ou non coup de sifflet, et c'était l'occasion pour lui de râler, de sortir du match et de prendre des fautes techniques. Et c'est-à-dire, ça avait une influence sur les résultats, mine de rien. Et là, ça fait quelques semaines, peut-être quelques mois, où il est quand même moins il est plus en contrôle de ses émotions. Il avait dit, vous pouvez le noter, c'est acté, aujourd'hui je travaille là-dessus, peut-être avec l'aide de Jason Kidd par exemple, avec peut-être ses coéquipiers aussi, les nouveaux coéquipiers qui sont autour, l'aide là-dessus, mais C'était une des stratégies des adversaires, c'était de faire en sorte que Luka dégoupille. Ça reste un joueur au talent vertigineux, même quand il est un peu, quand il est frustré et qui sort un peu de son match. Mais c'était une des stratégies. Et maintenant, celle-là, elle semble même plus pouvoir exister parce que il arrive à, en tout cas sur les dernières séries, parce qu'elle là, elle est en train de tourner largement en faveur de Dallas et la précédente a tourné en faveur de Dallas. Il est dans une émotion différente. Oui, alors c'est une forme de provocation parce qu'il célèbre les paniers, les actions spectaculaires, il fixe la caméra, il va discuter avec Anthony Edwards là, quand ils sont ils ont les mains sur les genoux et tu sens qu'il lui dit deux trois trucs. Après le panier sur Rudy Gobert où il a dit qu'il avait dit des trucs en slovène, bon on a pu lire sur les lèvres, c'était fleuri et c'était pas du tout slovène hein. Il est dans une manifestation de ses émotions qui est très différente, qui est pour le moment pas de la frustration, et ça retire encore une cartouche à ses adversaires, où j'imagine quand même qu'il y en a plein qui ont dû essayer, qui ont dû se dire que c'était un axe de travail pour défendre sur lui. Il n'y a même plus ça pour l'instant. Donc c'est-à-dire que tu as raison, il y a tous les types de défense, il n'y a aucun type de défense qui fonctionne correctement. À la limite, il y avait le côté très physique d'un Lugansdort qui a toujours été très compliqué pour Luka, mais même ça, il a réussi à s'en défaire en impliquant plus les autres avec l'aide de Kyrie et tout. Mais tu as raison, globalement, c'est peut-être le joueur le plus avec Jokic quand Jokic est agressif, c'est le joueur le plus compliqué à défendre aujourd'hui en NBA parce qu'il y a rien. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de scorer finalement.
Non, il n'y a rien qui peut l'empêcher, je suis d'accord avec toi. Sur son attitude, j'ai l'impression que c'est en cours de série face à OKC que ça a shifté vraiment. Tu sentais qu'il y a. Je ne me rappelle plus quel match précisément, mais il l'avait dit lui-même après au micro. Il s'était dit bon, il faut que je laisse ça de côté, maintenant je vais sourire. Et on retrouve son sourire narquois. Alors c'est un sourire qui veut autant dire va te faire foutre que quand il gueulait pas avant. Mais en fait, ouais. Ça change quand même son attitude vraiment. Et là, il a effectivement le niveau qu'il affiche là. On sent qu'il est encore un peu ralenti quand même par son genou, mais tu sens que ça va mieux aussi quand même de match en match et de semaine en semaine. Il devient vraiment inarrêtable et une des différences aussi, et je trouve qu'on la voit en fait au fur et à mesure de ses playoffs, c'est la confiance qu'il a en ses partenaires. Alors qu'on sait que c'est un excellent passeur, mais parfois en fait, et notamment en saison régulière, tu avais un petit peu l'impression que c'était soit je score, soit je fais la passe décisive. Soit je donne la balle à Kyrie, je mets dans un coin. Et en fait, je trouve que durant cette série, notamment face aux Wolves, on sent vraiment qu'il hésite moins encore qu'avant à faire simplement la passe juste, même si elle ne mène pas un tir à trois points directement. Et derrière, il y a des coéquipiers qui prennent les bonnes décisions. Et notamment, j'ai souvenir de une ou deux actions où finalement, il donne une passe simple. Son coéquipier, que ce soit PJ Washington ou Josh Green, je ne me rappelle plus précisément, fixe à nouveau, fait la passe derrière qui, elle, est décisive. Et en fait, c'est là où cette équipe de Dallas, là, elle est de plus en plus compliquée à jouer. C'est qu'il y a une espèce de montée en confiance globale de chaque joueur dans son registre. Où, pour reprendre la blague qu'on a entre nous, Shai, où Luka Doncic, c'est le Luka Doncic des Luka Doncic. Mais à côté, tu as PJ Washington qui est le Luka Doncic de PJ Washington, avec cette expression un petit peu de être une superstar dans ton rôle, en fait. Ouais. Et là, ça fait que l'engrenage, il est vraiment dur à enrayer maintenant.
Ouais, et il y a autre chose, c'est-à-dire que tu parlais de sa gêne musculaire et tout ça. Je me demande si depuis qu'il a cette douleur-là, il est pas plus dans une recherche d'efficacité. Peut-être pas. Enfin, c'est peut-être pas une recherche d'ailleurs, c'est peut-être inconscient. Et quand tu regardes ses pourcentages, il y a aucun match où il a vraiment. Là, si on prend les 5 derniers, admettons les 2 derniers contre Casey qui gagne et les 3 premiers contre Minnesota. À 3 points notamment, où il a parfois tendance à prendre des tirs compliqués alors que c'est pas sa meilleure arme hein, depuis le début de sa carrière. Il est capable de tirer très loin, de marquer très loin, mais c'est pas sa meilleure arme. Quand tu regardes, sur les 5 derniers matchs, il fait un match à 45%, un match à 66%. Il y en a un où il passe un peu à côté à 30%, le premier match pardon, contre les Wolves. Et les deux derniers, là, il fait 5 sur 11, donc plus de 45%. Et l'adresse globale, c'est pareil. Sur les 5 derniers matchs, toujours là, sur cette fenêtre-là, 54%, 60%, 46%, 43%, 50%. Il shoot juste, il phagocyte pas le ballon. Il sait, comme tu l'as dit, qu'il peut faire plus confiance à ses coéquipiers à côté, à commencer par Kyrie Irving, qui peut sur des séquences prendre le jeu à son compte, lui aussi avec une efficacité assez incroyable. Et des joueurs sur lesquels on n'aurait pas forcément misé pour être des joueurs de confiance dans un contexte aussi chaud que les playoffs, c'est-à-dire Derek Lively. Lui, je le trouve vraiment incroyable parce qu'il a 20 ans, il n'a pas beaucoup d'expérience. Même au niveau universitaire, hein. Il n'a pas beaucoup d'expérience et il joue avec un sang-froid et une maturité et une efficacité de vétéran, quoi. Et tous ces joueurs-là, PJ Washington, dont on a parlé ce matin avec Antoine, en disant que faudrait compter le nombre de matchs depuis qu'il est là où il a marqué des paniers très importants, notamment à 3 points dans les 3-4 dernières minutes des matchs, plus sa défense très solide. Luka peut faire confiance à ses coéquipiers, et on avait peut-être l'impression avant cette saison que c'était pas totalement le cas, et que là il a vraiment trouvé les joueurs fiables et réguliers sur lesquels s'appuyer. Et tous les très grands joueurs dans l'histoire ont eu à un moment peut-être ce déclic. On peut parler même individuellement, hein, même de Jordan, pour prendre les tout meilleurs. Ils ont eu ce moment où ils se sont dit, ok, je peux pas tout faire tout seul, je suis très fort mais je peux pas tout faire tout seul, et par contre j'ai cette fois là, cette saison, les joueurs autour de moi qui dans leur rôle sont parfaits, dont je respecte le talent. Et l'arrivée de Kyrie dans ce sens-là est très importante. C'est-à-dire qu'il, c'est même plus du respect pour le talent de Kyrie qu'il a, c'est de l'admiration, je pense. Et ça fait toute la différence. Et ça débloque tout un nouveau, plein d'ouvertures différentes chez lui, et un niveau de confiance et un niveau de performance qui est vertigineux, encore une fois. Et qui est pas. Théoriquement, Luka Doncic n'est pas censé être dans son prime encore. C'est ça qui est effrayant. Il a 25 ans. Globalement, que ce soit les tout meilleurs joueurs ou les joueurs lambda, autour de 27-28, on se dit que là, ils sont à leur prime et qu'ils performent le plus fort. Doncic, il a théoriquement encore des marges de progression. Il y avait la défense. Je veux dire, là, s'il reproduit ce qu'il est en train de montrer sur le plan défensif pendant 10-15 ans, bah, ça va être incroyable. La maîtrise des émotions, il montre qu'il est capable de maîtriser ses émotions. La durabilité et la fiabilité, il l'a, parce que même un peu blessé, il arrive à être performant. Il y avait ce côté un peu soliste qui peut se frustrer sur ses coéquipiers. On peut repenser au fait qu'il n'y ait pas eu d'alchimie avec Kristaps Porzingis, par exemple, alors que tout semblait fait pour qu'ils s'entendent finalement, et ça n'a pas pris. Là, maintenant, il arrive à. J'ai l'impression que tout est réuni pour que Luka démarre, même s'il a déjà son début de carrière est incroyable, et on va en parler avec les accomplissements individuels et collectifs qu'il a fait. Là, on est peut-être sur le vrai démarrage de quelque chose d'encore plus incroyable que ce qu'on avait prévu, je pense.
Ouais, c'est impressionnant, effectivement. L'entente avec Kyrie, elle est manifeste. C'est vraiment une relation à deux, dans le sens où pour que ça marche, il faut vraiment que les deux veuillent que ça marche, et tu sens que les deux veulent que ça marche. Ce qui m'avait marqué, moi, dans la série face aux Clippers, c'est que j'avais l'impression que parfois, Luka avait... T'avais l'impression qu'il voulait tuer le match trop tôt, en fait. Il prenait des tirs très durs à des moments où je trouve que c'était pas forcément le bon timing. Et au fur et à mesure de ses playoffs, je trouve qu'il a vraiment fait du tri. Et finalement, c'est en faisant plus confiance à ses coéquipiers, il a aussi réservé les moments où il doit frapper fort. Et ça, c'est aussi à mettre à comment dire. Il faut rendre à Kyrie Irving les lauriers qu'il mérite, parce que je l'ai trouvé très bon dans le dernier match, par exemple. Il y a tout un moment où Luka vraiment tente beaucoup de choses, les unes après les autres. Et Kyrie, il a vraiment la patience de rester concentré dans le match. Et le moment où la balle lui parvient... Et il est fort à ce moment-là. Et en fait, c'est ce que je trouve admirable. Et j'en reviens un petit peu à Jason Kidd. C'est, je trouve que c'est vraiment du premier au 15e homme. Les joueurs sont prêts à jouer au moment où on a besoin d'eux. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, en fait. C'est vraiment pas facile de te dire... Alors, soit quand tu es dans la pose d'un Kyrie Irving, de dire « Ouais, mais attends, ça fait 4 minutes, je n'ai pas touché un ballon. Moi aussi, je suis dans cette équipe. Moi aussi, c'est grâce à moi qu'on en est là. » Et de rester concentré. Le moment où la balle lui vient, tu sens qu'il est purement et totalement dans le moment et insaisissable autant qu'il peut l'être. Hier, Kyrie et Luka ont écœuré les Wolves, en fait. Il y a des moments.
Quatrième carton de Kyrie, 14 points, c'était trop facile. Enfin, il rend des choses difficiles pour le commun des mortels, et le commun des mortels, des basketteurs, trop facile. C'est fou.
C'était, ouais, voilà, ça avait vraiment aucun sens. Et là, ce timing, voilà, cette machine qui se met en route, elle est vraiment belle à voir. Ou même encore, j'en reviens à Dwight Powell, le mec, il a pas joué des playoffs. Il vient, alors il a pas fait un passage extraordinaire, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les, je sais plus, j'ai pas le box score sous les yeux, mais les 7 minutes où il a joué, eh ben, il a contribué à l'énergie globale de l'équipe, il a joué son rôle à la perfection. T'as l'impression qu'il y a personne qui râle, en fait. Tu vois qu'il n'y a personne qui fait la gueule. Même Dante Exum, toute la saison, il est très bon. Et là, il joue quasiment plus. Bah, s'il doit jouer 3 minutes, il joue 3 minutes à fond. Il repart et tu n'as pas l'impression que ça pose de problème dans le vestiaire. C'est assez admirable ce qui est en train de se passer. Et pour que ça se passe comme ça, il faut que les leaders, les meilleurs joueurs de l'équipe soient au diapason de tout ça. Et je pense que voilà, l'un comme l'autre... Bah, ils sont exemplaires, en fait. Tu parlais de sa durabilité. Cette année, il joue 70 matchs. Luka, voilà, on sait que parmi les superstars, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des joueurs sur qui tu peux compter soir après soir. Il y a Jason Tatum qui est tout le temps là. Tu as Nikola Jokic qui est tout le
Nicolas
temps
Jokic,
là.
ouais.
Bah, et après, c'est Luka, j'ai l'impression. Il n'y en a pas d'autres, des joueurs. Non, et SGA aussi, j'exagère, parce que
Ouais.
SGA aussi qui a joué quasiment tous les matchs. Mais finalement, très vite, après, il y a un énorme décrochement, je trouve, entre les joueurs qu'on vient de citer et les autres. Et ça, c'est à remettre à son actif, parce que voilà, tu sais qu'il n'est pas à fond, enfin, qu'il n'est pas à fond, qu'il n'est pas. Ceci dit, à ce stade de la saison, personne n'est en parfaite
Ouais, en
santé,
pleine forme,
mais
ouais.
tu vois, à la fin du match hier, on le voit se jeter au sol sur un ballon pour essayer de le disputer à Anthony Edwards, arracher comment dire, un entre-deux. C'est pas toutes les stars NBA que tu vois faire ça.
Ouais, et alors sur ce côté durabilité et tout, faut se dire que c'est un joueur auquel il a été reproché pas mal de fois d'avoir une condition physique un peu douteuse, de se mettre en condition en cours de saison après 15-20 matchs, de revenir de vacances un peu avec de l'embonpoint et tout ça. Là, j'ai aussi l'impression qu'il y a eu du travail là-dessus. Après, c'est une impression hein, visuelle, j'en sais rien, je suis pas sur la balance avec lui. J'ai l'impression qu'il est. Alors, il avait parlé hein, d'une forme de régime alimentaire différent. C'est quand même quelqu'un qui aime bien vivre. Hein, c'est un truc qu'un bon vivant, il partage ça avec Jokic aussi. Et quand les deux se croisent, ils sont des bouffes. Ça, il y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même ciblé cette saison comme quelque chose de très très important. Et ça se voit aussi sur le plan physique. Et cette durabilité, elle est très très importante. Au-delà du fait qu'il se blesse pas souvent, ce qui est quand même une qualité importante. Bah, il est présent, il n'a pas de vraie baisse physique, il n'y a pas d'enchaînement de matchs vraiment long où il semble tirer la langue. Sinon, il n'aurait pas été dans la conversation pour le MVP cette saison. Hein. Vu le niveau des prétendants entre Jokic et chez Gilgeous Alexander, pour citer qu'eux, il fallait être fiable et durable pour y arriver. Et lui, il a été. Et ça n'aurait pas du tout été un scandale d'ailleurs. Enfin, s'il avait été MVP, on n'aurait pas crié au scandale d'ailleurs. Hein, c'est pas... Donc, ouais, c'est. Il a cette durabilité des superstars qui portent leur équipe très loin, qui font gagner des titres. Voilà, c'est bon. Je dis ça, Kawhi Leonard n'a pas eu une durabilité folle après son titre avec Toronto, mais avant, il était plutôt fiable aussi. Donc c'est un trait qui est commun aux très très grands et que Doncic a aussi.
Carrément, et tu parlais tout à l'heure tu parlais de Kyrie, mais c'est vrai que Luka aussi, sur la fin du match, était tout à fait intenable dans le troisième carton. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'irrespect maintenant de. Franchement, j'ai l'impression que Luka Doncic. Alors, je dis pas que c'est une bonne chose du tout, hein, mais j'ai l'impression qu'il a plus de respect pour cette défense des Wolves. Parce qu'en
Ouais.
fait, ils lui ont tout fait, quoi. Prise à deux, pas prise à deux. Il a marqué sur. Il y a un passage où il score sur Gobert, ça change. Il se retrouve face à Karl Anthony Towns, il score sur Karl Anthony Towns. Derrière, ça change encore. Il se retrouve face à Naz Reid, il score sur Naz Reid. Il a fait vivre un enfer à Jaden McDaniels. Et le geste le plus irrespectueux que j'ai trouvé, vraiment, il se retrouve face à Conley. Il commence à faire un petit peu son. Alors, pas son Carmelo Anthony, parce qu'il n'y a pas autant de jab, mais tu vois, essayer de mesurer la distance. Et finalement, juste, il shoot au-dessus de sa tête, en fait, complètement arrêté. Il se lève, il
Je vois
shoot,
très bien.
comme tu le ferais
Ouais.
avec un U13 qui vient s'entraîner et jouer avec toi à la fin du match. Alors, pour le coup, il marque pas le panier. Mais j'ai vu ce tir, j'ai fait, mais le manque de respect, quelque part, que c'est de prendre ce tir, tu sens que. Ouais, c'est. Alors attention, ça peut être à double tranchant. Quand tu perds, tu manques de respect à un adversaire, faut s'attendre au retour de bâton. Mais là, pour rentrer dans sa tête, bon courage, les Wolves.
Mais
J'ai l'impression que.
il a effacé toute la mystique qui existait autour de la défense des Wolves. Alors, je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais c'était, il y avait de quoi. Moi, c'est ce qui m'a fait pronostiquer les Wolves vainqueurs sur cette série. C'est ce que j'ai vu défensivement de leur part, individuellement, avec tous les joueurs que tu as cités là, sur lesquels il a scoré. McDaniels, je l'ai trouvé incroyable
Il
sur la
est
série,
incroyable. Il est
toute la
incroyable d'ailleurs.
saison.
Tu peux
Il est
pas lui demander
phénoménal.
plus en fait.
Voilà, Rudy, c'est le meilleur défenseur de la saison, quadruple DPOY. Kat a été très bon défensivement contre Denver. C'est que des bons joueurs défensivement et c'est collectivement une très très forte équipe défensive. Mais à partir du moment où il a réussi à mettre un game winner devant Rudy, à déjouer tous les types de défenses qui lui ont été proposées, je pense que ça y est, il a balayé le truc. Il a un ascendant psychologique sur ces mecs-là et sur cette équipe-là tout court. Maintenant, ils savent, enfin, lui sait comment opérer face à eux et eux savent plus du tout comment opérer face à lui. C'est pas du tout le même profil d'équipe que l'était Denver. Et Doncic, bah, c'est un joueur unique. Il y a parce que tu, là, le, pour qu'il se produise ce qui se passe avec la scène que tu as décrite face à Conley, il faut quand même un joueur d'une taille élevée. Et Doncic, on se rend pas compte en fait à quel point il est grand et à quel point il est costaud finalement. Et ça, c'est ce qui le rend encore plus injouable parce qu'il peut Il peut vraiment marquer de loin, de près, physiquement dans la raquette, juste à la technique. Enfin, c'est le patchwork de basketteur qu'il est, c'est pas très loin d'être du jamais vu non plus, hein.
C'est, tu sais, ça me fait penser à LeBron face aux Raptors, en fait. LeBron
Ouais.
des Cavs face aux Raptors, où les Raptors pouvaient avoir fait la saison qu'ils voulaient en saison régulière, ils croisaient les Cavs, et tu sentais qu'il y avait... Dans la tête de LeBron, il n'y avait pas un scénario dans lequel les Raptors pouvaient gagner, quoi. Il y a assez de coachs, j'avais déjà sorti une fois, là, où ils doivent aller gagner un match à Toronto. Un journaliste fait à LeBron, c'est une situation stressante de voir aller gagner un match à Toronto, genre à l'extérieur. Il a dit, j'ai été dans des tas de situations stressantes dans ma vie, je peux vous dire que ça n'en fait pas partie. C'est sans doute une
Après,
de mes phrases préférées de LeBron, parce qu'il fait rarement du trash talk, mais franchement, t'as l'impression qu'il y a un petit peu ça qui est en train de se jouer dans la tête de Luka.
ils appelaient Toronto le Bronto après quand même, hein, c'est pour dire tellement c'était tous les ans. Il a déprimé des mecs, il a fait. Bah, c'est peut-être ça qui a poussé les Raptors à trader DeRozan, à tenter le coup de
C'est
Kawhi,
sûr.
finalement. C'est voilà, LeBron leur a fait quelque part du bien. En démantelant une équipe qui était très 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 forte collectivement. D'ailleurs, si ça fait partie des équipes que, alors c'est pas le sujet, mais c'est comme les Pacers, c'était des très fortes équipes. LeBron par son talent individuel et qu'il a mis au service du collectif, peut-être Doncic va démanteler des équipes tout au long de sa carrière juste parce qu'il est trop, parce qu'à chaque fois il va croiser les mêmes équipes et les mêmes joueurs et que ça risque d'être très déprimant pour des adversaires. Ouais.
Oui, non, mais c'est clair. Et tu disais tout à l'heure que, tu sais, ils ont pu envoyer toutes les formes de défense qu'ils
Ouais.
voulaient, ça change rien. Faut rappeler que Doncic a 25 ans, mais c'est vraiment pas un joueur lambda en NBA. C'est un mec qui est pro depuis ses 15 piges, qui est passé par le Real Madrid, donc finaliste déçu de l'EuroLeague ce week-end, avec des joueurs avec qui il a joué, hein. Il y avait encore les Sergio Llull,
Ouais.
les Rudy Fernandez, etc. Il a grandi avec ces mecs-là, hein. Et quand on parle de son attitude, je peux dire que quand t'as 15 ans, que t'arrives dans le vestiaire du Real Madrid et que tu dis, attends, mais à l'entraînement, faut que je joue face à Andrés Nocioni, Rudy Fernandez et tous les Lascars de
Et
l'époque,
Sergio Rodriguez et tout là, ouais.
c'est pas un mec qui sort du, t'sais, du comment dire, du circuit AAU et qui a fait un an à la fac, en fait. En termes de maturité, de dureté, d'habitude de jouer des matchs à enjeu, fort. Quand t'as joué l'Euroleague, quand t'as joué en Liga Endesa, tous les matchs sont importants. Il n'y a pas un match de... T'es le match de novembre où tu vas jouer contre les Hornets, ça n'existe pas, en fait, dans ces contextes-là. Donc je pense que c'est vraiment pas le joueur lambda. Et je voulais te ramener quand même en 2018, Shai, draft NBA. Donc, pour rappel, draft 2018, premier choix de draft, DeAndre Ayton, choisi par les Phoenix Suns. Un choix qui, je pense, avec le recul, peut toujours se défendre vu le contexte de l'époque. Joueur d'Arizona, choisi par Phoenix, un joueur à la vivacité quand même impressionnante pour sa taille. Voilà, enfin,
Moi, j'ai quand même une objection là-dessus, mais on verra. Je te laisse
Ok.
poursuivre, mais j'ai
Le seul
une
truc qui n'avait pas
objection.
de sens, c'est d'avoir Kokoskov comme coach et de prendre
Et c'est ça,
DeAndre
bah, c'est ce que
Ayton.
j'allais dire.
Ça, on
C'est-à-dire
est
qu'il vient de
d'accord.
gagner l'Euro avec lui et il y a tout qui est fait pour recréer la dynamique joueur-franchise player. Et... Enfin bon, bref, voilà, c'est ce qui me paraît. Je suis d'accord sur le profil d'Ayton, qui était un bon joueur universitaire, qui avait le gabarit pour peser, qui est presque un local par la force des choses. Mais moi, quand je voyais Kokoskov, pour moi, c'était sûr qu'ils allaient prendre Doncic. Enfin, voilà, bref, je te
Ouais,
laisse poursuivre.
non, mais je suis d'accord. C'est juste que je pense que d'un point de vue sportif, en remettant en contexte, c'est comme te dire que tu sais que, comment dire que. Alors, DeAndre Ayton est loin d'Hakeem Olajuwon, mais tu reprends la draft
Mais pour
de
Jordan, ouais.
1984, tu ne vas pas dire il aurait dû. Comment ça se fait que les Rockets sont pas pris Jordan, en fait? Tu dis, bon,
Ouais,
ben
bah
non,
oui.
ils ont pris Olajuwon, tout le monde aurait pris Olajuwon à l'époque. Donc là, je dis pas que tout le monde aurait pris Ayton, mais je trouve que c'est un choix qui peut encore se défendre. Deuxième choix, par contre, Sacramento Kings. Choisissent
Marvin Bagley,
Marvin
ouais.
Bagley. À l'époque, déjà, on dit ça n'a pas de sens. Le mec, il est en train de se battre pour être pivot remplaçant aux Detroit Pistons de 2024. Hein, Detroit Pistons de 2024. Troisième choix de draft, Luka Doncic, drafté par les Atlanta Hawks. Et à l'époque, déjà, enfin, je veux dire, on n'était pas les seuls. Hein, n'importe quel heureux, enfin, on n'était pas les seuls journalistes à dire, mais qu'est-ce que font les Hawks à trader Luka Doncic? Et à
Pour Trayan, ouais.
l'envoyer à Dallas en échange de Trae Young. Alors, pendant saison rookie, tu dis, bon, bah, ils ont fait n'importe quoi. Après, il y a 2 ans où tu dis, bon, bah, c'est
Ouais.
n'importe quoi, mais finalement, c'est correct. Ils ont quand même récupéré un très bon joueur. Là, on est maintenant en 2024. C'est quoi ce choix? Le choix est terrible, en fait. Mais quel. Et allez, je rappelle tout ça parce que voilà, à l'époque, ce qui me rendait fou, c'était d'entendre encore certains. Alors consultant, je veux dire consultant plutôt qu'expert, te dis ouais mais les Européens, c'est dur d'évaluer leur niveau, on sait pas trop quelle est la compétition qu'ils ont affrontée. Mais attends, à l'époque,
Ah
il
là,
était
ça
déjà
valait pas là, ouais.
champion d'Europe, MVP de l'Euroleague, 18 ans. L'Euroleague et même un championnat d'Europe FIBA, c'est bien plus facile de figurer de ce que ça veut dire en termes de niveau que le championnat universitaire. Je suis désolé,
Bien
la
sûr.
NCAA, enfin, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, jamais ils ont affronté l'adversité que ce mec-là avait affronté à l'époque. Tu mets l'équipe de DeAndre Ayton à la fac, tu mets Arizona contre le Real Madrid dans lequel jouait Luka Doncic, ils se font
Oh, il y a
déboîter en
plus,
fait.
ah, il y a plus 60, ouais, c'est sûr.
C'est quand même dingue. Et c'est pas là, on n'est pas en train de sortir des dossiers d'il y a 25 ans. Tu dis le scouting, on n'était pas là, on n'avait pas les stats avancées. Je
Mais
continue de
tu
pas
sais qu'un
comprendre en
jour,
fait.
je pense qu'un jour, il y aura un long article, une oral history qui sera écrite dessus, parce que sur chaque strate là, de tout ce que tu viens de dire, il y a des. C'est-à-dire que, okay, alors pour Phoenix, voilà, okay, le choix, on l'a expliqué. Mais pour les autres, enfin pour les Kings, il y a l'histoire, la brouille Divac avec le père de Luka. Avec Atlanta, bah c'est juste Mark Cuban qui a fait un coup de. C'est pas loin d'être un coup de génie.
Ouais.
Il y avait une histoire dessus où c'était dans le podcast Old Osmo qu'il avait expliqué ça. Il disait, on a essayé plein de fois de faire le trade. Il restait 15 minutes avant le pic, on avait toujours pas fait. En gros, son équipe, ses scouts et tout le staff avait dit à Cuban, il faut absolument que, s'il y a moyen, si tu as une chance de le faire, il faut le faire.
Parce qu'en fait, ouais.
Ouais.
En fait, ouais, les GM n'arrivaient pas à s'entendre. En fait, ce
C'est
que
ça.
dit Cuban, c'est que le
Ouais.
GM des Hawks, c'est le GM de Dallas, n'arrivait pas à s'entendre parce qu'il compliquait les choses, en gros,
Voilà.
tel que
Et
l'explique
c'était
Cuban.
ça.
Il dit, on va faire plus simple, je vais appeler directement le propriétaire des Hawks. Je te laisse reprendre.
Bah ouais, c'est ça. Il dit, j'ai pris le téléphone, je lui ai dit, on sait quel gars tu veux, nous fais pas croire que tu vas prendre Doncic. Nous, on veut bien le prendre plutôt que de laisser les GM. Perdre du temps entre eux, on règle ça entre nous, et puis donc il l'a fait. Donc le coup de pression, coup de bluff ou pas de Cuban a été déterminant. Mais tu vois, sur chaque équipe qui n'a pas drafté Luka, il y a à chaque fois des implications, des contextes très différents, mais ça montre bien que ça se joue à pas grand-chose. C'est ce qui est fou. Il y a des mondes parallèles où tu dis qu'est-ce qu'il aurait fait à Phoenix, est-ce que ça aurait bien fonctionné? Moi, je pense que oui, hein. Je pense que c'est le genre de joueur qui
Ça aurait
partout aurait
fonctionné
pu.
partout.
Voilà, partout, à Sacramento. On a vu que Sacramento était à quelques années seulement de redevenir correct et de plus être frappé par la loose. Pareil, alors avec un Doncic, on peut que imaginer que ça aurait fonctionné aussi. Avec des dirigeants, il y avait Divac Stojakovic, donc il y avait aussi un terreau pour que ça, pour bien s'entendre. C'est fou de dire ça. À Atlanta, évidemment, là, mais c'est la même chose, il y aurait eu moyen. Donc, ouais, les Mavs ont eu. Le coup, enfin l'audace et la chance qu'il y ait eu de l'incompétence d'un côté, des brouilles antérieures d'un autre. J'aimerais bien entendre vraiment le vrai, voilà, le vrai fin mot sur les Kings notamment. C'est quand même fou de se dire que c'est peut-être pour une brouille ancestrale entre Zaza Doncic et Divac. Enfin, qu'est-ce qu'ils en ont à faire quoi? Quand tu peux drafter un mec avec ce talent-là, ça n'a aucun sens.
Non, mais c'est clair. Ce qui est fou, c'est que c'était vraiment pour le coup en temps réel. On se disait, et même, tu te rappelles, on s'était un petit peu accroché avec, enfin, très gentiment avec le compte des Kings
Des
FR
Kings.
sur Twitter. Parce qu'en fait, on était venu à se dire, de toute façon, les Kings, ils font tellement n'importe quoi, ils se sont
Allez.
rattrapés depuis, qu'on espérait que Doncic soit pas choisi par
Bien
Sacramento parce qu'on
sûr.
avait peur qu'il fasse n'importe quoi. Mais
Ben
par
oui.
contre, je te rejoins, en fait, Luka, tu le mets dans n'importe quel contexte, ça marche, en fait. Regarde, si tu changes poste par poste, Luka Doncic et Trae Young aujourd'hui, tu peux les mettre sur le terrain ce soir et leur faire jouer un match, ça va marcher en fait. Même chose Phoenix, tu préfères avoir Bradley Beal, Kevin Durant et Devin Booker ou Devin Booker et Luka Doncic. Je veux dire,
Oui, bien sûr.
tu peux prendre le problème dans tous les sens et ça reste absurde, absurde. Enfin, c'est quand même une des plus grosses tragédies de la draft, je trouve, le fait que, enfin, ce qui s'est passé pour que, enfin. Le contexte qui a permis à Dallas de récupérer Luka Doncic, je dis, mais enfin, normalement, tu refais le scénario un million de fois, jamais tu retombes sur le même résultat. C'est pas possible
Mais
qu'il
oui,
leur tombe
ce qui est
entre les
fou
mains,
en
quoi.
plus. Là où Dallas a une chance incroyable en plus, c'est que ils sont sur la fin de l'ère Nowitzki. Il est bouilli, le pauvre Dirk. Tu sais qu'ils vont passer peut-être 5-6 ans à essayer de se reconstruire, à essayer de trouver leur prochaine star, et que c'est très dur à trouver. C'est quand même la denrée la plus rare, c'est de trouver le joueur sur lequel tu vas miser pour incarner ta franchise quand tu as eu un mec qui pendant 15-20 ans a été comme Dirk. Et là, non seulement ils ont eu le bonheur de pouvoir prendre Doncic, alors il faut de la compétence, hein. Il faut se dire. Quoi qu'il en coûte, on le fait. Si on doit trader toute l'équipe et les 10 prochaines années, on prend Luka. Ça, ils étaient prêts à le faire, il n'y a aucun souci. Et la chance qu'ils ont eu aussi, c'est que Luka a joué une saison avec Dirk quand même. Et encore aujourd'hui, tu vois Dirk au bord du terrain, ils sont dans une relation vraiment quelque chose de, à la fois de l'ordre du mentor, de l'ami. Je pense que Dirk est très important pour Doncic aussi. Quand ils parlent l'un de l'autre, il y a à la fois le respect, l'admiration. Alors, il se taquine parce que c'est la personnalité de Luka d'abord et Dirk aussi parce qu'il est un peu plus taquin que ce que son image extérieure ne laisse supposer. Mais il y a tout qui a été parfait pour Dallas dans l'historique qui leur a permis de récupérer Doncic. C'est toujours là que c'est les what ifs sont marrants et tu te rends compte que dans l'histoire de la NBA, ça se joue à des trucs à la fois qui sont liés à la compétence et à l'incompétence des autres. Il faut aussi toujours espérer ça. Et des espèces de petits... De petits coups du sort, d'aide du destin. Enfin, pour moi, si le père de Doncic n'a pas eu une brouille sur on ne sait pas quoi avec Divac il y a 20 ans, les Kings sont peut-être à la place des Mavs aujourd'hui, quoi. C'est fou de se dire ça.
C'est ça, parce que du coup, regarde, il a été drafté 3e, mais finalement, il est tombé dans l'équipe qui pouvait drafter 5e, donc les Mavs, ok. Ouais. C'est-à-dire que devant Luka Doncic, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Trey Young et Jaren Jackson Jr.
Ouais.
C'est complètement fou en fait le différentiel de niveau du gars, alors que nous on savait très bien que c'était quand même quelque chose. On va pas réinventer l'histoire. Moi je pensais pas que son adaptation serait aussi instantanée au jeu NBA.
Ouais.
Je pensais pas que dès sa première saison il sera à plus de 20 points, presque 8 rebonds, 6 passes. Je pensais qu'il allait s'adapter, qu'il avait tous les outils pour et qu'il serait très fort. Ça je le maintiens.
On l'a écrit dans les Rivers, on l'a écrit, on avait fait des gros papiers sur lui pour dire c'est l'élu quoi. C'est
exactement.
Du basket mondial. Après qu'il soit aussi fort tout de suite, non. Ok, ça je te rejoins. On pouvait pas dire il sera. On va parler après de son historique, son début de carrière, il est totalement insensé sur le plan des accomplissements individuels et collectifs.
Exactement, mais par contre, tu savais qu'il allait... Enfin, pour moi, c'était limite l'une des valeurs les plus sûres, en fait, dans le top de cette draft. Encore une fois, avec Ayton sans... probablement, tu vois, au vu de ce que Ayton avait pu montrer à la fac, voilà, je reviens pas forcément sur ce pic-là, mais avec le recul, tu te dis, mais c'est une tragédie, en fait, cette draft dans le haut de la draft, quoi. Marvin Bagley Jr., enfin, le troisième plutôt, Trae Young, bon, je dis pas, ça reste un bon joueur, Trae Young. Je pense même que, finalement, sa courbe de carrière fait que maintenant, il est peut-être sous-coté par rapport à ce qu'il peut effectivement t'apporter sur un terrain.
Et juste pour rebondir sur Trae Young, en fait, quand j'y repense, c'est une autre implication. C'est-à-dire que si à ce moment-là, les Hawks, ils donnent pas les clés du camion à Travis Schlenk, qui était un ancien des Warriors, et qui arrive en se disant... Moi, mon projet, c'est de refaire les Warriors, donc je veux des shooters, des shooters, des shooters. Il prend Trae Young, c'est pour ça aussi qu'il prend Trae Young. C'est parce qu'il veut un shooter, un mec qui à la fac, tire de super loin, donne l'impression d'être un shooter d'élite. Alors, il s'avère que c'est même pas la meilleure caractéristique de Young aujourd'hui en NBA, c'est un vrai bon playmaker, très gros passeur, mais ses pourcentages à 3 points ne sont pas ceux qu'ils espéraient. Et depuis, Schlenk n'est plus là, et ça... Donc, s'il n'y a pas à cet instant-là, ce mec-là qui veut faire ce projet-là, je pense que les trois quarts des autres GM avec un autre projet, ils draftent Doncic en fait.
Ouais.
Et ils font pas le. Enfin bref, ouais, c'était pour rebondir dessus. Mais...
T'as raison sur la spécificité de cette draft et ce qui s'est passé pour que Dallas puisse lui mettre la main dessus. Allez, je te sors une autre stat quand même, que je vais rien apprendre à personne. La plus grosse moyenne de points inscrits en playoff de tous les temps, donc all time, hein, vous pouvez prendre depuis le début de la NBA, Michael Jordan, 33,4 points de moyenne. Deuxième, Luka Doncic, 31,1 points de moyenne. Le mec a 25 piges. Donc devant, je vous donne juste ceux qui suivent pour donner un petit ordre. Donc derrière, tu as Allen Iverson, Kevin Durant, Jerry West, LeBron James, Donovan Mitchell quand même qui est septième, Devin Booker, Anthony Edwards, avec sur un échantillon plus faible, bien sûr, à Nikola Jokic. C'est pour montrer un petit peu dans quelle catégorie se place Doncic, ce qu'on va pouvoir venir à cette partie de la discussion. Shai, on avait dit qu'on allait parler un petit peu de son statut à venir all-time, en fait. On regardait ça avant de commencer le podcast. En fait, il est en avance sur tous les temps de passage, en fait, sur la plupart de ses prédécesseurs en termes de précocité, de résultats, de performance au très très haut niveau. C'est on va se poser la question. Il y a un moment, la question va se poser de savoir s'il fait partie des GOAT potentiels. et peut-être même de est-ce qu'il devra, je préfère le mettre au futur, ouais. Est-ce qu'il devra un moment ou est-ce qu'il viendra à rentrer dans la question, dans la discussion pour le GOAT. Alors là, c'est peut-être prématuré dans le sens où il a toujours pas gagné de titre, il a toujours pas été MVP d'une saison par exemple, mais est-ce que c'est quelque chose toi que tu vois venir prochainement?
Mais oui, parce que, alors y a évidemment que le chemin est très long, mais le simple fait qu'on se pose la question, alors que toi comme moi, on est longtemps resté figé sur des positions, enfin je pense, hein, tu me diras ce que t'en penses, mais sur Jordan, de toute façon, est intouchable, parce qu'on a grandi avec ça, on a grandi avec Jordan, et pas que Jordan d'ailleurs, dans une hiérarchie très compliquée de bouger Jabbar, Russell, même Magic ou Bird. Le simple fait que là, aujourd'hui, avec ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a déjà fait, on se dit qu'il a le potentiel pour être peut-être le GOAT ou un des GOAT, un des peut-être top 5, même juste top 10, c'est déjà très compliqué à intégrer. Je pense que oui, il est en train de montrer qu'il peut, parce que je reprends ce que tu disais sur les playoffs, sur sa moyenne. C'est fou de se dire que t'es le deuxième scoreur le plus prolifique en moyenne derrière Michael Jordan dans l'histoire. Contrairement à Anthony Edwards, qui démarre vraiment sa carrière en termes de match de playoffs, Luka, là, c'était le match 3, c'était son 43e match de playoff, donc ça commence à déjà être pas mal. Il a 1336 points, 400 rebonds, 355 passes. Il n'y a personne dans l'histoire de la NBA qui a fait mieux, en fait. C'est le premier joueur qui atteint ces résultats-là sur ses 43 premiers matchs. Donc, il est ultra en avance sur tous les temps de passage. Sans étendre au playoff sur le niveau qu'il a en saison régulière, il a encore été donc dans le meilleur 5 de la saison, la All-NBA First Team. C'est déjà sa cinquième. C'est l'un des. Il n'y a que 28 joueurs dans l'histoire qui ont eu au moins 5 participations, 5 présences dans le meilleur 5 de la Ligue, et il est dedans déjà. Il est devant des types comme Steph Curry, comme. J'ai plus tous les noms, ils avaient sorti ça. Mais...
Alors j'en ai, c'est intéressant quand même cette notion, ce que tu dis. Donc je vais vous donner, donc, avec 5 apparitions dans la All-NBA First Team, ça le met à égalité avec des joueurs comme Julius Erving, Charles Barkley, Rick Barry, George Gervin, Dwight Howard, Jason Kidd. Et derrière, ça le place devant des joueurs comme Dirk Nowitzki, John Havlicek, Chris Paul, Stephen Curry, David Robinson, Kevin Garnett, Moses Malone, Bill Sharman, Walt Frazier, j'en passe d'autres, mais la classe de joueurs dans lequel ça le situe est complètement folle. Ans, ouais. Il a joué 6 saisons, il était rookie de l'année, sa saison rookie, et derrière, il était systématiquement All-Star et dans la All-NBA First Team. C'est juste incroyable. Il est à une apparition dans la All-NBA First Team de joueurs comme Giannis, Kevin Durant, Hakeem Olajuwon, Will Chamberlain, même qu'il y en a deux de plus simplement. Tu te dis, c'est complètement dingue. 25 ans, comme tu le disais, je pense qu'il est quand même déjà dans le début de son prime, parce que, comment dire, l'autre élément toujours à garder en tête, c'est que c'est un mec qui est pro depuis qu'il a 15 ans. Quoi. Donc,
ouais, c'est vrai.
C'est aussi un... Je pense qu'il est aussi en avance sur son prime. Ça ne veut pas dire que son prime sera plus court pour autant, mais je pense qu'il est déjà quand même, malgré tout, effectivement, les pieds dans le début de son prime. Mais l'avenir est complètement dingue. Pour ce qui est de la question du GOAT ou des GOAT, il faudra des titres. Bien sûr, on l'a vu avec Nikola Jokic, par exemple, qui est, moi, je pense, probablement... Je vais mettre l'un, mais c'est peut-être même le meilleur pivot que j'ai vu jouer, moi, de ma vie. Si on considère que Tim Duncan est vraiment un power forward et qu'on le garde à ce stade-là, je pense que c'est le meilleur pivot que j'ai vu de ma vie. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'il fait partie du top 10 all-time, parce que un seul titre, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des mecs à passer. Je veux dire, il n'y a pas que... La discussion du GOAT, elle se résume pas à LeBron et Jordan, en fait. Même déjà, souvent, ça a été un raccourci de dire que si LeBron n'était pas le meilleur, là, c'est juste une course à deux. Tous les joueurs que tu as cités, les Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, oui, Bill Russell, ils font partie de cette discussion. Donc ça fait un sacré paquet de mecs à passer pour être dans ces discussions-là. Et tous ces gars-là, enfin, ce qui les sépare, c'est aussi les titres, quoi.
Là, ce qui a changé là, c'est que on est en train de voir. Là, donc là, ce serait là, c'est sa deuxième finale de conférence en 3 ans. Il va, alors, je veux pas leur porter la poisse, mais je pense qu'il va disputer ses premières finales NBA. S'il commence à gagner un titre à 25 ans. Il peut raisonnablement espérer en gagner encore quelques autres, et peut-être ne serait-ce qu'atteindre le total de LeBron, qui est un de ses modèles, même ne serait-ce que dans le jeu, ce serait fort. Il est en avance sur tous les mecs qui sont dans la discussion pour le GOAT, en élargissant, hein, avec tous ceux qu'on a dit. Donc là, je pense qu'avec ce qu'il a fait cette année sur le niveau de MVP qu'il a eu, les playoffs qu'il est en train de réaliser, peut-être aller jusqu'au titre, il a gagné le droit qu'on se pose la question si à un moment il pourra le faire. Il pourra être considéré comme tel dans 10, 15, 20 ans. Rien que ça, pour moi, je trouve ça fou. Parce que sur le talent, on savait que c'était un des joueurs les plus doués au basket de tous les temps. On l'a vu arriver, même à 16 ans, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Martien ? Au même titre qu'on se dit, Victor Wembanyama, on n'a jamais vu un truc comme ça. En plus, avec le cerveau qu'il a et tout, c'est, lui aussi, on peut se dire rapidement, il a les ingrédients pour être dans la discussion un jour. Mais entre avoir les ingrédients et réussir 5, 6, 7 premières saisons, comme est en train de le faire Luka, au point qu'on arrive à se demander si dans 20 ans, des mecs vont pas se dire, bah oui, moi c'est Luka Doncic que je considère comme le GOAT, il a dépassé Jordan ou LeBron. Enfin, on nous aurait pris pour des fous il y a 4-5 ans si on avait dit ça, parce qu'il n'avait encore rien fait. Là, aujourd'hui, on en est loin, mais la question peut se poser à un moment. On peut se dire, avec quelques titres, alors il va pas gagner 11 titres comme Bill Russell, parce que c'est le personne fonctionnement de la NBA. Ça n'arrivera plus jamais, je pense. Déjà, s'il arrive à un niveau comme Kobe, comme LeBron, enfin, ce sera des arguments supplémentaires. Si on ajoute à ça la longévité, parce qu'on peut supposer qu'il aura une carrière assez longue, on touche du bois pour lui, mais il n'a pas un style de jeu ultra explosif. Sa taille et sa technique sont ses meilleurs arguments, et ça, a priori, ça disparaîtra pas. Donc, il a plein d'arguments qui font penser que l'argument numéro un de LeBron maintenant, c'est sa longévité, son excellence, sa longévité dans l'excellence. Ça, il peut l'avoir. Ce qui est du premier jour où il a foulé un parquet NBA jusqu'à aujourd'hui et potentiellement jusqu'à la fin, il risque d'être excellent. Les titres, ça peut-être commencer à arriver. Les accomplissements individuels, ils sont déjà étourdissants alors qu'il a 25 ans et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas encore 5, 6, 7 fois dans des first teams. Ça peut paraître un peu provoque de dire que c'est possible, mais je pense qu'il a les capacités pour qu'on parle de lui dans ces termes-là à un moment.
Mmh. Alors moi, en termes de niveau, on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast, je pense que en termes de niveau individuel, j'ai aucun doute là-dessus, que son niveau de jeu effectif puisse le mettre dans cette discussion. C'est plus sur le palmarès, je pense que la route est encore extrêmement longue, parce qu'en fait, oui. On parle d'un joueur qui n'a pas encore gagné un seul titre, même en début d'année, toi et moi, je pense qu'on était d'accord, on voyait Denver répéter, assurer le back-to-back, et tu te dis, bon, déjà avec deux titres, Jokic, ça le met dans une certaine catégorie, là, au bout du compte, il n'en a qu'un seul. Je continue de penser que c'est sans doute avec Luka, je pense que Jokic est le meilleur joueur du monde, mais c'est genre 1A, 1B, je pense, avec Luka Doncic, et tu te dis, imaginons que Jokic n'arrive plus à gagner de titre ou n'arrive qu'à en gagner qu'un autre sur l'ensemble de sa carrière, sur ce qui reste. Quand tu vois Dallas qui est en train de monter en puissance, les Wolves qui sont en train de monter en puissance, OKC qui va être monstrueux, je veux dire, chaque année là, pour les 10 ans à venir, ça va être une guerre sans merci dans la conférence Ouest. Je pense que ça, c'est pas si simple, et pour la longévité, je suis pas sûr qu'on verra fréquemment des joueurs faire des carrières comme LeBron. C'est un cyborg, et par rapport à ce que tu disais, c'est un de ses arguments majeurs pour être dans cette discussion du GOAT, mais c'est aussi lié au fait que il y a la longévité dans l'excellence, comme tu l'as très bien dit, il y a les trophées individuels et il y a quand même les bagues gagnées, et on a vu même pour un joueur du niveau de LeBron à quel point ça a été compliqué finalement d'aller chercher même le titre de 2020. Quelque part tu peux dire il est inespéré, quoi. Il y a aucune garantie qu'ils aillent chercher ce titre avec les Lakers, il y a le titre qu'ils vont chercher avec les Cavs, où tu te dis c'est quand même là, c'est pareil, tout le monde pensait qu'ils étaient morts sur le bas-côté de la route. Tu vois, on n'imaginait pas du tout qu'ils allaient aller chercher ce titre face aux Warriors. Donc le plus dur reste à venir, quelque part, pour Luka de ce point de vue-là, je pense.
Bien sûr.
Par contre, sur le niveau de jeu, le niveau de jeu effectif, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense que même sur ses points forts, il ne va que progresser. Je pense que sur sa gestion des émotions, il ne devrait que progresser. En conférence de presse hier, il saluait l'impact de Kyrie Irving dans la maturité, dans la sagesse qu'il apportait. Je veux dire, jamais on n'aurait dit ça de Kyrie il y a 5 ans, on n'aurait même jamais dit ça en début de saison. Donc c'est pour montrer à quel point les années vont l'aider là-dedans. Donc tout le potentiel est là. Par contre, voilà, le plus dur commence peut-être quelque part, même si, même de ce côté-là, je m'en fais pas tellement, parce que des gens qui ont eu la trajectoire de Luka en termes de solidité mentale, il n'y en a pas 50. Hein. Tu peux dire Kareem Abdul-Jabbar, parce que les gens ont oublié que c'était à l'époque déjà un phénomène depuis les lycées, qui avait une pression qui était folle sur lui. LeBron, alors ça va peut-être en faire rire certains, mais Mais Tony Parker est de cette génération-là, parce que depuis ses 16 ans en France, alors même si ce n'est pas la même magnitude, il y a les projecteurs qui sont braqués sur lui avec les médias qui suivent ses résultats systématiquement. Et dans une moindre mesure, je dirais Ricky Rubio, qui lui aussi a émergé au très haut niveau très jeune. Je crois qu'avec Badalone, ses premiers matchs, c'est pareil, ça doit être la saison.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et qu'on annonçait comme un futur très très grand. Et en fait, bah, tu vois, dans cette. Il y a quand même. Tu vois, sur ces rares prototypes, bah, y a des Hall of Famers et il y a des joueurs comme Ricky Rubio, par exemple. Alors, je pense que Luka Doncic, c'est un joueur plus fort que Ricky Rubio. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on voit la difficulté quand même qu'il y a à faire une grande carrière. Et en même temps, je pense qu'il a... Il a déjà pu avoir se forger son mental, en fait, tu vois, la capacité de. Ce que Anthony Edwards va devoir commencer à découvrir maintenant, en fait. Les attentes qui sont peut-être un petit peu disproportionnées par rapport à ton niveau de maturité d'un point de vue basket. On voit la pression, là, qui malgré voilà, son attitude qu'on trouve tous les deux hyper rafraîchissante d'Anthony Edwards, on voit que c'est pas si simple, en fait, quand maintenant on te demande de produire année après année, ou même Jason Tatum, où on en parlait la semaine dernière, où on se dit, bon, bah, maintenant, il fait des matchs à 30 points, 8 rebonds, 7 passes, on se dit, ouais, mais il n'a pas été si bon que ça. Non, on voit la difficulté que ça peut représenter, et pour relever ce challenge, je pense que Luka, il est prêt à relever ce challenge.
Ouais, bien sûr, et puis bon, il faudra voir ce que ça va donner aussi là, sur les hypothétiques finales NBA, là, à l'heure où on enregistre ça, il y a 3-0, et aucune équipe dans l'histoire n'a jamais... remporté de série après avoir été mené 3-0. Donc, c'est pour ça que je pars du principe qu'il va disputer ses premières finales NBA. Et c'est un joueur qui me semble assez hermétique à la pression. Parce que tu le disais, il a joué quand même. Enfin, joué aussitôt dans une institution comme le Real Madrid. Il est parti de chez lui très tôt aussi. Enfin, je sais pas, il est arrivé à 12 ans en Espagne, quelque chose comme ça. Il a été mis dans des situations d'inconfort, de pression, d'attente extrêmement élevée, comme tu l'as dit. Et je n'ai pas l'impression que le contexte de finale. En dehors de problèmes physiques qu'il pourrait avoir, je n'ai pas l'impression que. Je pense que c'est même là-dedans qu'il s'exprime le mieux. Il a été MVP de Final Four d'Euroleague. Il a contribué fortement à ce que la Slovénie gagne l'Euro. Je crois que c'est Dragic qui avait été MVP, mais il avait 17 piges. Il était déjà le playmaker contre la France. Il nous avait assassinés. Enfin, il avait été incroyable. Je ne crois pas que c'est des contextes qui vont qui vont l'handicaper. Et c'est ce qui me fait dire que si ils arrivent tous les ans à être toujours. Au moins en demi-finale ou finale de conférence, il aura un paquet d'opportunités d'aller en finale NBA et de gagner des titres. Et là, la question du palmarès, elle va vite être résolue. S'il débloque déjà le palmarès cette année, ce qui va être compliqué, parce que si c'est bien Boston en face, là aussi, je touche du bois pour nos amis des Celtics, qu'ils ne deviennent pas les premiers à dilapider.
Là, si ça se produit et sans Haliburton, c'est qu'il ne mérite pas d'être voilà, en finale NBA quand tu mènes 3-0 et que le meilleur joueur
adverse n'est pas là. On passerait sur du surnaturel. Donc oui, c'est pour ça que je me permets d'anticiper une finale Boston-Dallas. Mais c'est pour moi, voilà, il a la précocité, les temps de passage où il en avance, le niveau individuel qu'on a répété. Il a, selon moi, plus... En tout cas, ce qu'on disait sur sa défense, parce que là, il a montré qu'il pouvait le faire. C'est pas irrémédiable. Le niveau d'effort, parfois, était très, 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 très discutable. Il revenait en marchant et tout ça. Là, il est en train de montrer qu'il peut ne pas revenir en marchant. Il peut être constamment impliqué sur un match. Donc, le bagage global de ce joueur me fait dire qu'il peut très bien... il a les armes. Et je le répète, c'est déjà incroyable qu'on puisse se dire ça, qu'on soit autorisé à penser ça, déjà. C'est pas garanti. LeBron, il a mis du temps avant qu'on vraiment puisse considérer ou que des gens qui ont vu jouer Jordan puissent dire ouais, c'est vrai quand même, il mérite au moins d'être dans la discussion, tu vois. Il a fallu qu'il gagne un titre, plusieurs titres, qu'il soit monstrueux sur la durée. Après, il y a le côté culturel aussi pour le GOAT, faut pas se cacher. Il y a l'impact sur la culture qui fait que Jordan est quasiment indétrônable là-dessus. Faudra voir quelle trace laisse Luka aussi. Est-ce que. Au niveau du basket global, est-ce qu'il aura une empreinte? Je pense que oui, hein. Je pense vraiment que ça peut être le cas. Mais tu l'as dit, le chemin est très très long sur tous les plans. Mais là, ce qu'on est en train de voir fait dire qu'il est sur la bonne voie quand même.
Ouais, les finales vont être vraiment passionnantes parce que finalement, tu vas retrouver face à face aussi Jason Tatum et Luka Doncic. Il y a ce face à face qui va être vraiment hyper intéressant à suivre. Effectivement, à condition bien sûr que les Mavs et les Celtics... valide leur finale de conférence. Il y aura une opposition de style aussi qui sera Ben, j'ai hâte d'y être. Allez, je m'arrête là-dessus parce qu'on vous fera forcément un podcast de preview sur la finale. On pourra rentrer un peu plus dans le détail de cette confrontation si jamais ça devait être celle-là qui devait se produire en finale NBA. Est-ce que il y a autre chose que tu voulais rajouter sur Lucas Shai?
Non, écoute, je pense qu'on a été assez. J'espère qu'on ne considérera pas ça comme un blasphème, qu'on ait discuté du fait qu'il avait le talent pour être un GOAT. On ne dit pas que ça va être le GOAT, hein, juste que le niveau qu'il est en train de démontrer est exceptionnel. Et puis moi, ajouter que je suis très très content de m'être trompé sur les Mavs, parce que je sais que parfois dans les commentaires on nous dit vous êtes négatif sur telle équipe, vous aimez pas un tel ou un tel, vous aimez pas Kyrie, vous aimez pas Luka, machin. On s'est plaint de Luka hein, pendant la saison, hein. Même dans les podcasts en dehors, on s'est plaint du fait que malgré son génie, il était désagréable à voir râler en fait tout bêtement. Je suis très très content de m'être trompé sur le potentiel de cette équipe, de cette association entre Kyrie et Luka, sur Kyrie tout court. Moi, je suis très content de m'être trompé et que a priori Dallas aille en finale et que Luka soit sur cette voie royale quoi.
Ouais, ça va être. On a hâte de voir les matchs 4 de chaque conférence qui seront quand même. Ça va être intéressant aussi de voir si les Wolves arrivent à se redresser, à repartir de l'avant. Les Pacers sont pas passés si loin que ça non plus finalement sur le match 3. Ouais. Donc, le match de ce soir sera passionnant. Une chose, oui, je vous rappelle aussi, on va refermer là le podcast, mais que la réédition de notre MOOC 2 spécial défense est toujours en précommande si vous voulez aller voir de quoi il retourne. Je vous rappelle simplement le principe, c'est qu'en fait, on a rajouté presque 130 pages de nouveaux articles uniquement axé autour de la défense, et il y a plusieurs packages, et si vous allez sur basketstation.com et puis on vous met un petit lien, vous pourrez voir, vous pouvez commander la réédition simple entre guillemets, vous pouvez aussi choisir un package où vous avez une surcover avec une illustration originale signée de Vladislav Lakché, je trouve même plus les
GOAT.
Voilà, exactement, les qualificatifs pour le... pour le décrire, voilà ce super artiste laiton qui avait fait la couverture originelle qui est derrière moi, avec aussi il y a des goodies, des stickers, une carte à collectionner, etc. Et il y a un troisième package dans lequel vous pouvez avoir tout ça plus une lithographie originale de la cover. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça sur Basket Session. On a vraiment essayé d'aller au fond du fond des choses sur cette question de la défense, que ça soit d'un point de vue individuel, historique, collectif. On a pu bénéficier de l'apport de consultants vraiment passionnants. Donc allez au moins jeter un coup d'œil. Je pense que ça pourra vous intéresser. Nous on vous retrouve toute cette semaine les CQFR, la Late Session. Bien sûr, mardi soir, plus les autres contenus auxquels vous êtes habitués. On a hâte de vous parler de tout ça et de continuer de décrypter ces playoffs NBA avec vous. Et on vous dit à très vite. Ciao.
Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.